Le réveil sonne. C'est un matin pas comme les autres où l'excitation se mêle à l'appréhension. Hier encore, les doigts de pied dans le sable chaud, je regardais la mer. Là, mon seul horizon et mon cartable chagrin, les cris de la cour de récréation, les têtes nouvelles qui m'inquiètent déjà. Et pourtant, l'odeur de mon cahier tout neuf vient titiller en moi la curiosité de cette rentrée, une de plus. Alors, je me lève.
Le monde est à nous. Alice Milo, Cerise Marichaud.
L'école, peut-on avoir confiance dans l'école? C'est le sujet d'aujourd'hui dans Le Monde est à nous. Bonjour à tous, bonjour Cerise.
Salut Alice.
Tout l'été, chaque dimanche, deux jeunes entre 15 et 25 ans nous embarquent dans leur vie, leur quotidien et leurs préoccupations. C'est la parole décomplexée des ados en pleine puberté. Et pour notre toute dernière émission de l'été, c'est Gabi et Tess qui ferment la marche. Sentiment de ne pas être à sa place, de perdre son temps, toutes deux nous racontent aujourd'hui leur frustration et leur colère envers l'école. Et peut-être qu'au fond, vous aussi, vous vous êtes déjà posé cette question. Mais qui a eu cette idée folle, un jour, d'inventer l'école ? Pouvoir venir dans l'émission, j'aurai peut-être une épreuve au rattrapage ce jour-là. C'est un texto de Tess, quelques jours avant les résultats du bac. C'est la panique, le doute. A-t-elle réussi l'épreuve sacrée ? Tess, 20 ans, tu es notre invitée du jour. Bonjour.
Bonjour.
Et on lève tout de suite le suspense. Tu l'as eu, le Saint Graal, le baccalauréat, et même sans rattrapage. Bravo Tess. Et pourtant, c'était pas gagné. Toi et l'école, ce n'est pas vraiment une histoire d'amour. Pour dire vrai, tu t'apprêtais même à tout abandonner. Mais ce qui t'a sauvé des griffes de l'école buissonnière, c'est le lycée autogéré de Paris. Avec sa pédagogie alternative, tu y as trouvé ta place. Toi, ta tignasse rousse et ton piercing dans le nez, comme des indices de ton esprit rebelle.
Mais les places sont rares au lycée autogéré de Paris et tout le monde n'a pas la chance d'y avoir accès, comme c'est le cas de Gabi. Parce que oui, dans quelques instants, Tess, tu vas rencontrer Gabi, 16 ans, qui a décidé en novembre dernier de ne plus retourner à l'école après seulement quelques semaines passées en classe de seconde. Alors Gabi, c'est un joli diamant brut, longue chevelure blonde, sans une trace de maquillage, un langage direct qui se la joue un peu bonhomme, en mode même pas mal, mais sous ce costume, on devine une jeune fille maturée avec un regard déjà très fin sur le monde qui l'entoure. Et c'est chez elle, à Montreuil en Seine-Saint-Denis, que je l'ai rencontrée dans son logement social où elle vit seule avec sa maman.
Allez, au revoir.
Au revoir.
À tout à l'heure.
Alors donc ici, on est dans ta chambre.
Voilà, on est dans ma chambre. Donc ici, c'est mon bureau. Là-bas, il y a tous mes anciens cahiers, porte-vues, classeurs, conventions de stage, tout. Ici, il y a mes livres de bac pro. Après, là-bas, il y a mes cahiers de général, puisque ça, c'est mes cahiers de général, quand je veux aller en lycée général. Et ben, maintenant, ça me sert à rien, quoi, en fait.
Pourquoi ?
Ben, parce que, donc, du coup, ben, j'y vais plus à l'école depuis novembre 2016. Ouais, c'est ça, depuis novembre 2016. Donc, ben, ce bureau me sert à entreposer mon bordel. Voilà. Mais sinon, il ne me sert absolument à rien. Donc j'ai commencé l'école en Normandie. Je suis venue ici donc à Montreuil pour mon CE1. Et j'étais une personne hyper douée à l'école, mais vraiment. Et puis après ça a commencé quand donc je suis arrivée au collège. En sixième j'avais aussi des bonnes notes, je suivais bien, j'allais tout le temps à l'école et tout ça m'intéressait. Et c'est en cinquième que ça a commencé à moins m'intéresser et où mes notes ont commencé à baisser. Donc mais en tout cas, voilà, mes notes, c'était vraiment la dégringolade. Je devais avoir 3 ou 4 de moyenne générale. Après, en quatrième, je faisais aussi des conneries. Donc, je me faisais souvent virer, j'étais souvent collée et tout ça.
Et c'était quoi, les conneries ?
Un peu tout, n'importe quoi. C'était du bavardage. Après, on rigolait tout le temps. Après, voilà, quand le prof, il te demande d'arrêter, bah, t'es insolent, donc tu réponds mal. Et puis... après ça monte crescendo, le prof il s'énerve, donc toi tu t'énerves encore plus et donc après exclusion de cours et donc tu te retrouves chez la CPE, donc bah voilà. Par exemple, poisson d'avril, avec notre prof d'espagnol, on lui avait mis de la colle sur la chaise, mais c'était gentil quoi. On n'a jamais insulté un prof ou quoi que ce soit. On me dit souvent que je parle mal, mais je me rends pas compte que je parle mal en fait, que j'agresse quelqu'un. Et du coup bah avec les profs c'est pareil, je gardais ma manière de parler, donc forcément ça peut énerver en fait, je pense. Après, à force des exclusions de cours, des absences, bavardages, insolences, à la fin de l'année, ils en pouvaient plus parce que ma classe était très agitée. J'étais pas la seule à être comme ça. Et donc, du coup, le seul moyen qu'ils ont trouvé pour qu'on évite de gêner le bon déroulement de la classe, eh ben, ça a été de nous mettre dans plein de classes différentes, en fait. Donc, les cinq, on était séparés. On avait un emploi du temps. Et donc, je sais pas, moi, le lundi, je commençais à 9h. J'allais dans une classe de 6e, en anglais. Après, à 10h, j'allais dans une classe de 5e en mathématiques. À 11h, j'allais dans une classe de 3e pour faire du sport. Chaque professeur nous donnait un travail à faire pour l'heure. Et voilà, on devait le faire et le rendre à la fin de l'heure. En gros, ils nous ont jetés comme des merdes dans des classes, n'importe lesquelles, en fait. Voilà.
Comment t'as vécu ça, toi, là?
Ah, moi, ça m'amusait. Hein. Et puis après, en 3e, je faisais plus vraiment de conneries puisque j'allais pas trop en cours cette année-là. Je m'en souviens, je séchais souvent quand même.
Et alors, qu'est-ce que tu faisais quand t'étais pas à l'école?
Ah bah, je restais chez moi ou je sortais, enfin voilà. Je traînais avec des gens un peu plus grands que moi. Et du coup, certaines personnes n'allaient plus en cours non plus. C'était plus facile de se voir, quoi, parce que voilà. Mais non, dans mon collège, il y avait pas énormément de personnes qui séchaient régulièrement comme moi les cours. Et puis, du coup, bah, à cause de ça, j'ai dû retaper ma troisième. Parce qu'à la fin de ma troisième, ils m'ont dit, bah, maintenant, c'est soit des CAP, laverie, ou horticulture, ou maçon, voilà, des trucs comme ça, donc des trucs qui m'intéressent vraiment pas. Donc j'ai dit, bah, non, moi, je préfère redoubler ma troisième. Et du coup, ma seconde troisième, je me suis dit que là, c'était trop, si je continuais mes conneries, j'avais plus d'école. Et là, pour le coup, bah, quand tu te fais virer et que t'as 16 ans, après, c'est dur pour retrouver un lycée ou un collège ou quoi que ce soit. Du coup, c'était vraiment la déscolarisation, mais pas choisie, en fait. Du coup, non, moi, je voulais pas me fermer toutes les portes. Je voulais quand même avoir le choix. Donc, je me suis mis à fond dans les matières que j'aimais. Bon, je vais pas mentir, les maths, j'ai quand même eu des notes catastrophiques. Mais voilà, dans les matières que j'aimais, je me suis mise à fond. Du coup, j'ai eu le passage en général. J'y suis allée, j'y suis restée 3-4 semaines. Et là, j'ai décidé d'arrêter l'école. Parce qu'en fait, j'ai vu que même la générale, ça m'intéressait pas.
Depuis novembre, là, cette année, t'as pas du tout été à l'école de l'année.
Exactement. J'y ai pas du tout été à l'école.
Et alors, qu'est-ce que t'as fait de tes journées?
Alors, je pense hein, que quand voilà, on a un métier ou on est scolarisé, on se dit, bah putain, elle doit galérer toute la journée, elle doit s'ennuyer de fou et tout, elle doit rien avoir à faire. Mais en fait, moi, déjà, je me couche très tard. Donc du coup, je me réveille tard, et quand je me réveille, eh ben, mes potes terminent l'école, donc du coup, je sors. Je galère pas, en fait.
Mais tu te réveilles à quelle heure?
C'est varié, ça dépend à quelle heure je me couche. Je peux me réveiller à 13h comme je peux me réveiller à 17h.
Toi, Tess, tu as 20 ans, tu es lycéenne au lycée autogéré de Paris, où tu viens d'achever ta classe de terminale. Est-ce que tu te reconnais dans le témoignage de Gabi?
Bah, premièrement, le début du reportage, oui, je pense que ça me ressemble assez, dans le sens où elle dit qu'elle a été douée à l'école. Donc déjà, c'était aussi mon cas jusqu'en troisième, par contre. J'ai pas lâché au collège, j'ai continué à aller en cours. Donc j'avais des 15-16 de moyenne générale, alors que il me suffisait d'aller en cours, d'écouter un minimum, et j'avais une moyenne assez bonne.
Sans fournir trop d'efforts.
C'est ça. Sauf que, arrivée au lycée, j'ai compris que ça suffisait plus. Que si on travaillait pas chez soi, et ben on réussissait pas. Donc c'est surtout ça qui m'a fait lâcher en fait. Contrairement à Gabi, j'étais intéressée au niveau des cours, sauf que de voir que j'étais passée de 15 de moyenne à 7, voire 5, ça m'a beaucoup démotivée. Donc j'avais beau essayer de m'intéresser, j'étais en internat donc j'avais également 2 heures d'études le soir, mais je n'y arrivais pas en fait.
Mais à partir du moment où tes notes ont chuté et que tu as constaté que peut-être c'est parce que tu ne travaillais pas assez pour préparer les cours, les devoirs, tu n'as pas réagi, tu ne t'es pas dit peut-être si je travaille un petit peu plus, mes notes vont remonter et donc je vais aussi me sentir mieux.
Ah si, bien sûr, bah, en seconde, comme je l'ai dit, j'étais en internat, j'avais 2 heures d'études le soir, donc je travaillais vraiment, mais je pense que comme j'avais jamais vraiment travaillé en dehors des cours, il me manquait beaucoup de méthodologie. Donc j'arrivais pas en fait, j'avais beau essayer, j'avais beau réviser, faire des exercices, je galérais surtout en sciences. Et là j'y arrivais pas en fait.
Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Mais passe en nous parce que j'ai beaucoup pris sur toi. Regard brille pour moi, ce que t'as dans la poitrine c'est à moi. Ton regard brille pour moi, ce que t'as dans la poitrine c'est à moi. que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. J'ai tout gardé en moi, je me suis donné tant de mal, je pourrais tout flamber pour toi. Pourtant je ne suis pas pyromane. Et tous les deux on foncera dans le mur. On va transformer la Ferrari en Lambo. Je suis flatté. Tu as demandé dans tes prières un garçon comme moi. Je suis choqué. Je m'imaginais sans cesse avoir un cœur indomptable. Et je me souviens de comment t'étais sapé ce soir-là. Et je sais que ton cœur est apaisé quand je suis là. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Mais passons-nous parce que j'ai beaucoup plus. Ton regard vibre pour moi, je me tape dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard vibre pour moi, je me tape dans la poitrine, c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné, tout donné, tout donné, tout donné. Tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai.
Maître Gims, tout donné sur RFI, c'est le choix musical de Gabi, 16 ans, une des deux jeunes qui cause dans le poste aujourd'hui dans Le Monde est à nous où l'on parle de l'école. L'école justement où Gabi ne met plus les pieds depuis plus de 9 mois. La journée, Gabi dort et le soir, elle retrouve ses copines qui, elles, continuent bien d'aller à l'école.
Hey !
Ça va ?
Il fait grave chaud dehors. Oui, bah toi,
c'est toi.
Alors,
bah oui.
Alors.
Alors,
t'as
dit ouais.
Ah, oui. Bah oui, parce que toi, t'es au courant de la moitié, mais pas toi.
Mais tu sais que Baba, tu parles de Baba. Mm-hmm. Mais tu sais, Baba, il était avec qui?
Tu m'as dit avec Amine Mourito.
Ouais. Il fouettait des cash et tout. Et maintenant, il fait le mec musulman ici avec. Casse-toi.
Qu'est-ce que vous en pensez que Gabi, elle a arrêté d'aller à l'école?
Je savais qu'elle avait les capacités pour aller plus loin, mais après. Tant pis pour elle, hein.
Après, elle est intelligente, du coup, c'est pas comme si elle était nulle à l'école, elle faisait rien, comme d'autres personnes qu'on voit et qui passent leur vie à fumer, à rester dehors. Elle est intelligente et après, elle sait ce qu'elle veut faire plus tard.
Parce que Gabi, encore, c'est une personne, elle sait ce qu'elle fait, elle est sûre d'elle, et enfin, voilà. Mais moi, si j'arrêtais l'école, j'aurais rien à faire.
Moi, il y a des matières auxquelles je m'intéresse et des matières auxquelles je m'intéresse vraiment pas. C'est-à-dire que, par exemple, les maths, vraiment, j'en ai alors rien à secouer, genre, ça m'intéresse vraiment pas. Vraiment, je m'en fiche, quoi. Je sais compter. 2 plus 2, je sais que ça fait 4. Voilà, pour moi, c'est tout, quoi. Le théorème de Thalès et le théorème de Pythagore, franchement, je m'en fiche. L'histoire, j'aimais bien. Du coup, je suivais en cours d'histoire. J'avais des bonnes notes en cours d'histoire. Le français. Tout ce qui était anglais, espagnol, les langues mises à part le français, non, j'aimais pas. Bon, c'était ma petite distraction de faire mes conneries, quoi. Comme ça m'intéressait pas, bah, du coup, voilà. Je faisais ça. L'école, ça m'intéresse pas parce que, par exemple, moi, je suis pas du tout une personne qui apprend par cœur. Quand j'avais des leçons à apprendre par cœur, j'ai jamais ouvert un cahier. Moi, je pense que quand on apprend par cœur et qu'on est forcé d'apprendre par cœur, j'ai l'impression que ça ressort plus vite que quand on nous apprend quelque chose et que nous, on essaye de le comprendre par nous-mêmes, en fait. Et du coup, je trouve que l'école, en fait, c'est juste basé sur... En fait, c'est pas basé sur ton intelligence, en fait. C'est plus... Voilà, t'as appris par cœur, alors t'avances sur 20. Mais si t'as pas appris par cœur et que ce jour-là t'étais malade et que du coup voilà t'as pas appris, bah alors t'as 0. Et du coup cette personne-là qui a 0, on la considère moins intelligente que celui qui a eu 20 sur 20. Alors que si ça se trouve, celui qui a eu 20 sur 20, il a passé 5 heures à apprendre sa leçon par cœur et en fait il a pas compris un seul mot de ce qu'il a appris. Alors que ça se trouve, la personne qui a été malade, elle en avait juste rien à foutre de ce que vous lui avez raconté, mais cette personne elle est plus cultivée que celle qui a eu 20 sur 20. Et du coup moi c'est ça que j'aime pas à l'école. C'est qu'on n'est pas noté sur notre intelligence, sur nos capacités réelles, sur notre culture, sur... En cours, tu dois ressortir une définition par cœur, mot pour mot, et que tu dois raconter comment la Deuxième Guerre mondiale s'est passée, mot pour mot. Alors que pour moi, si tu as compris le déroulement de la Deuxième Guerre mondiale, t'as pas besoin de réciter la leçon par cœur, quoi. Juste, tu expliques comment t'as compris le déroulement de la Deuxième Guerre mondiale.
D'après toi, pourquoi l'école, elle est faite comme ça?
Parce que je pense qu'on n'a pas le temps de s'attarder si toi t'as compris comment. Parce que chacun comprend différemment et chacun a ses... à ces mots. Et donc du coup, je pense qu'on n'a pas le temps de s'attarder sur toi, t'as compris comme ça, toi, t'as compris comme ça, et toi, tu dis ça avec tes mots là, et toi, avec tes autres mots. Du coup, c'est compliqué.
Parce que c'est plus facile pour le prof.
Bah oui. Ouais, c'est plus facile pour le prof, ouais, je pense.
On entend bien ici les reproches de Gaby, 16 ans sur l'école. Toi, Tess, tu as 20 ans et tu as bien failli aussi décrocher avant de franchir les portes du lycée autogéré de Paris où tu viens de passer ton bac. Qu'est-ce qui, toi, ne te convenait pas dans l'école républicaine classique ?
Eh ben, je vais avoir un peu le même discours que Gaby parce que je suis vraiment tout à fait d'accord avec elle. C'est-à-dire que déjà, quand je suis arrivée au lycée, c'est pas que je ne m'intéressais pas à ce qu'on m'apprenait, c'est que je ne m'intéressais pas à la façon dont on me le faisait apprendre.
C'était la méthodologie qui te déplaisait.
C'est ça. Et aussi, ce qu'on attendait de nous, comme le dit Gaby, bah, malheureusement, on n'est pas évalué ou noté sur nos réelles capacités. On va être évalué, si, sur nos capacités, mais nos capacités à retenir un cours. C'est ça que je trouve dommage, quand même.
La mémoire.
Personnellement, je trouve que c'est de la mémoire. Après, enfin, il y a beaucoup de, comment dire, de capacités qui ne sont pas évaluées au lycée. Et ça, c'est dommage. Par exemple, il y en a qui sont vachement doués en musique, en dessin, et au final, bah, ils ont une moyenne nulle parce qu'ils n'arrivent pas à retenir un cours d'histoire, par exemple.
Alors là, ce que tu dis, ça fait référence aux travaux du célèbre psychologue américain Howard Gardner, hein, qui a théorisé 8 grands types d'intelligence. Tu hoches la tête, tu le connais ?
Oui, oui.
Ouais, tu le connais. Donc je les cite hein, parce que c'est pas rien quand même. L'intelligence linguistique, logico-mathématique, corporelle, intrapersonnelle, interpersonnelle, musicale, corporelle et spirituelle. Bon, ça fait beaucoup d'intelligence hein, qu'on ne connaissait pas. Et pourquoi ? Parce que l'école, le système scolaire traditionnel ne reconnaît que l'intelligence linguistique et l'intelligence logico-mathématique. Ce qui expliquerait en partie l'échec scolaire. Parce que c'est une théorie qui est parfois contestée. Toi, elle te paraît juste ?
Je pense qu'elle est juste dans le sens où, oui, on n'a pas tous les mêmes capacités. C'est pas parce que quelqu'un n'arrive pas à retenir un algorithme de mathématiques qu'il est con. Si ça se trouve, il va être super doué en danse ou dans les relations sociales. Malheureusement, ça, le lycée, le collège, ça ne nous l'apprend pas.
Aujourd'hui, Tess, tu as quitté ce système scolaire traditionnel. Tu es au lycée autogéré de Paris. Quel a été le déclic pour t'en inscrire ? Et dans un premier temps, comment en as-tu entendu parler de ce lycée autogéré de Paris ?
J'en ai entendu parler quand j'étais en première L. Donc, parce que,
première littéraire. Hein.
C'est ça. On était au mois de février à peu près, et j'exprimais clairement l'envie de quitter le lycée. Mais voilà, j'arrivais, bah, j'allais presque jamais en cours, j'avais vraiment lâché. Donc j'en ai parlé à mon CPE qui, lui, en fait, m'a parlé. Donc je lui ai expliqué pourquoi je ne m'intéressais pas aux cours.
Donc le CPE, c'est le conseiller principal d'éducation.
Oui, pardon. Et donc c'est lui qui m'a parlé du lycée autogéré de Paris. Il m'a passé le site de l'école. Et ce qui m'a plu tout de suite, bon, alors c'est très long, il y a beaucoup d'informations, etc. Mais on va dire que pour résumer, ce qui m'a plu, c'est le fait que les profs prennent en considération l'élève en lui-même. C'est pas que des dossiers. C'est ça qui m'a beaucoup plu, premièrement, dans ce lycée.
Mais les places sont restreintes. Comment se passe la sélection ? Toi, comment as-tu pu entrer dans ce lycée autogéré de Paris ?
C'est vrai que les places sont assez restreintes. Donc, il y a 250 élèves divisés en seconde, première et terminale. Il n'y a que des filières générales. J'ai dû envoyer une lettre de motivation durant l'été. Et j'ai été contactée en septembre uniquement pour savoir s'il restait des places ou pas. Par chance, il restait des places en terminale littéraire où je voulais aller. Donc j'ai eu un entretien avec deux profs et un élève, parce que les élèves font aussi partie du système de recrutement, ils ont leur mot à dire. Et suite à ça, j'ai eu une période d'essai de 2 semaines où j'étais dans la classe, en fait, comme si j'allais en cours, mais l'inscription n'était pas validée, enfin n'était pas confirmée. Et suite à ces 2 semaines-là, il y a eu un nouvel entretien qui a confirmé mon inscription.
Donc en fait, ils veulent mesurer ta motivation et ta capacité à s'adapter à ce nouveau système.
C'est ça, c'est surtout une question de motivation et de volonté en fait.
Restez avec nous, Tess et Gaby, nos deux jeunes rebelles continuent de nous parler de leur désaccord avec l'école. Le Monde est à nous revient juste après le flash dans 3 petites minutes.
Le Monde est à nous.
Qu'on en est aux confidences de jeunesse, je vais t'en faire une de confidence.
J'écoute.
Le Monde est à nous. Alice Milot, Cerise Maréchaux.
Le Monde est à nous, le magazine de l'été qui donne la parole aux 15-25 ans. Et même si vous n'êtes plus un ado depuis longtemps, restez branchés, cette émission est aussi la vôtre. Ils sont parfois agaçants, ces jeunes gens, avec leur insolence. Eux qui croient déjà tout savoir du haut de leurs 15 ans. Et pourtant, s'il y en a qui sont bien placés pour critiquer l'école, cette vieille dame qui n'a guère changé depuis l'époque de Jules Ferry, ce sont bien eux, ces ados, un chouïa arrogant. Aujourd'hui, deux jeunes prennent la craie dans Le Monde est à nous. Tess, 20 ans, en terminale au lycée autogéré de Paris, et Gabi, 16 ans, qui a décidé de quitter l'école. Au tableau, la liste des reproches est longue, mais souvent juste, rarement gratuite. Alors auditeur, si tu es un pur produit de l'école républicaine, prends garde à tes oreilles.
Pour moi, je pense qu'il faut faire aussi en fonction de chacun, en fait, en fonction de ce que la personne... Il faut un minimum de tout, hein, bien sûr.
T'es d'accord avec le fait qu'il faut un socle commun?
Voilà, c'est ça. Il faut une base commune. Voilà, il faut que chacun sache lire, chacun sache écrire, sache compter, connaisse un peu l'histoire, du pays, des autres pays, du monde, de ce qui s'est passé avant, des guerres, voilà, tout ça. Mais on n'est pas obligé d'approfondir pour chaque personne. Voilà, par exemple, les maths, je pars du principe où si tu sais compter, tu sais faire une addition, une soustraction, une division, le théorème de Thalès, si tu deviens esthéticienne, il te servira à rien, franchement.
Est-ce que tu crois vraiment qu'à 13, 14, 15 ans, on est en capacité de savoir ce qu'on a envie de faire ?
Personnellement, à 13, 14, 15 ans, 16 ans, je savais très bien que les maths, c'était pas mon domaine et que ça m'intéressait absolument pas. Mais me dire, bon, bah voilà, à la place de 7 heures de maths, t'auras histoire, à la place de celle de jeudi, et bah t'auras français. Bah d'accord. Moi, je savais que j'avais des capacités et que du coup, je pouvais me permettre de faire des conneries pour pas que ça engendre sur mon futur.
Mais alors, parce que donc, du coup, c'est quoi tes plans alors ?
C'est de faire une formation de moniteur éducateur, donc qui durerait 2 ans. Et puis, bah après, devenir moniteur éducateur.
Donc, tu vas forcément retourner un peu à l'école si tu fais une formation.
Oui, c'est ça, mais c'est pas l'école, c'est pas le lycée, c'est pas le collège, quoi. C'est pas pareil.
Là, t'as envie d'aller dans une formation où on va t'apprendre que des choses dont tu vas avoir besoin pour ton métier.
Voilà, c'est ça, ouais.
Demain, c'est la rentrée et non, tu n'iras pas à l'école. Tu n'iras d'ailleurs plus jamais à l'école, hein, puisque maintenant tu as eu ton bac, tu iras donc à l'université. Tu es inscrite en fac de psycho à Grenoble et ce chemin jusqu'ici a été chaotique. Hein. Tu as bien failli renoncer plusieurs fois à l'école jusqu'à ce que tu découvres le lycée autogéré de Paris, un établissement public avec des méthodes alternatives. Concrètement, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que tu as découvert, toi, en franchissant les portes de cet établissement ?
Il y a beaucoup à dire. Déjà, j'ai découvert qu'il y avait des méthodes alternatives qui existaient, tout simplement. Ce que pouvait nous offrir l'éducation nationale en France, c'était pas simplement des cours magistraux. Après, faut connaître le lycée autogéré de Paris. Il y en a pas beaucoup qui le connaissent. Je me souviens que quand j'ai voulu aller aux portes ouvertes, j'étais un peu paumée. J'ai demandé à des gens où ça se trouvait. Ils savaient pas, alors que c'était à 5 minutes, quoi. Donc, ce que j'ai trouvé au lycée autogéré de Paris, c'est... Je dirais que premièrement, c'est une écoute que j'ai trouvée. Au niveau des professeurs, il y a beaucoup de communication. Bah déjà, on les tutoie, on les appelle par leur prénom. Donc, ça crée une relation déjà différente au premier abord.
Ça vous met sur un plan d'égalité ?
C'est ça. Par exemple, dans le lycée, il n'y a pas de hiérarchie. En fait, on n'a pas de CPE, on n'a pas de proviseur. C'est les profs et les élèves qui gèrent le lycée, en fait. C'est l'un des principes fondamentaux du lycée, c'est l'autogestion. Donc tout le monde participe à la vie collective du lycée, c'est-à-dire que ça se répartit en plusieurs, on appelle ça des commissions, donc plusieurs groupes qui vont gérer chaque domaine, entre guillemets. Donc il y a la commission budget qui va gérer le budget du lycée, il y a la commission entretien qui va gérer, organiser tout ce qui est ménage, etc.
Donc c'est vous qui faites le ménage ?
C'est nous qui faisons le ménage.
Et c'est vous qui votez les budgets ?
C'est nous, oui, qui votons les budgets, oui.
Et c'est vous aussi qui participez à la sélection des autres élèves, donc de vos futurs camarades.
Oui, les élèves du lycée autogéré de Paris ont une place, en fait, dans le recrutement des nouveaux élèves.
Qu'est-ce qui te convient mieux, toi, là-dedans, par rapport à ta personnalité et ton expérience ?
Bah déjà, la hiérarchie. Parce que moi, j'avais du mal au lycée quand j'avais, par exemple, je ne sais pas... quelque chose à dire par rapport au cours d'un prof qui me plaisait pas ou j'étais pas forcément d'accord avec lui, je lève la main, je dis ce que j'ai à dire. Et puis c'est... Enfin, leur réaction, je vais être crue, mais c'est... Ferme ta gueule, c'est moi le prof, quoi. Enfin, on n'avait pas notre mot à dire en tant qu'élève, c'est forcément le prof qui avait raison. Et la hiérarchie au LAP permet...
Le LAP, c'est le lycée autogéré de Paris. Hein. C'est oui, comme oui. ça que vous l'appelez. Hein.
Oui, oui. Donc cette hiérarchie-là, elle permet d'avoir une place pour tous qui est la même.
Et puisque la décision des élèves est importante, dans le reportage, Gabi, elle parle des cours à la carte, c'est-à-dire choisir ses cours en fonction de ses centres d'intérêt, un peu à la manière anglo-saxonne, ce qui n'existe pas du tout dans le système scolaire traditionnel français. Ça semble pourtant une solution intéressante. Si on part du principe, comme tu le disais toi-même tout à l'heure, qu'on apprend mieux quand on est intéressé, est-ce que ça se passe comme ça au lycée autogéré? On choisit les cours auxquels on veut assister?
Oui, bien sûr, c'est possible. Donc de base, évidemment, à la rentrée, on a tous un emploi du temps fixe, mais le lycée applique le principe de libre fréquentation, c'est-à-dire que les absences et les retards ne sont pas sanctionnés. Et on peut tout à fait, par exemple, si on est en seconde et qu'on est plus intéressé par la filière scientifique, se dire non, je ne veux pas aller en histoire géo ou en français, je vais plutôt me rendre à un cours de première S en maths ou en physique.
Toi, t'as choisi quoi, par exemple ?
J'ai choisi la littéraire.
Donc ça veut dire que tu avais très très peu de matières scientifiques.
Bah, j'en avais pas du tout.
Du tout ?
Oui.
Quelles étaient tes matières préférées ?
La philo. C'est vraiment le cours où j'arrivais vraiment à m'investir parce que... Après, j'ai pas connu de cours de philo dans les lycées traditionnels. Je sais pas si le déroulement est différent ou pas. Mais je sais que dans mes cours de philo, la parole était vraiment aux élèves. C'était pas... Enfin, évidemment qu'il y avait un prof qui nous faisait le cours, forcément, c'est le but quand même. Mais le prof était pas devant le tableau... à nous réciter son cours mot par mot et nous on était là à gratter, c'était pas du tout ça, c'était déjà au lycée autogéré de Paris, les tables sont en rond en fait. Donc tout le monde se regarde, il n'y a pas de rangée, il n'y a pas le professeur et les élèves derrière. Donc ça permet une vraie communication, un vrai échange et c'était ça les cours de philosophie. On avait le droit de dire qu'on n'était pas d'accord avec tel ou tel auteur, c'était vraiment un réel échange en fait.
De notre jeunesse.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos ?
Que voulez-vous ?
Tôt ou tard, la vie se chargera de leur couper les cheveux.
Le monde est à nous.
Le monde est à nous, l'émission de l'été qui ouvre ses studios aux jeunes qui ont entre 15 et 25 ans. Aujourd'hui, on parle de l'école avec nos deux jeunes invités, Tess, 20 ans, avec nous en plateau, et Gabi, 16 ans, qui a quitté définitivement les bancs de l'école et qui vit à Montreuil avec sa maman.
T'as vu Tiffany, tu vas avec elle ?
Non, elle termine ses révisions avec sa mère, après elle me revoit.
D'accord, ok. Bah, Albert, salut. Elle dîne ici, Tiffany, ou pas ?
Non.
D'accord. Et non. Tu... Non. Toi, tu dînes ici ou pas ?
Je sais pas.
D'accord. Bon.
Je t'appelle.
Ouais, ok. À plus tard.
Ciao.
Salut.
Salut, mon père.
Donc, vous êtes la maman de Gabi ?
Je suis la maman de Gabrielle, tout à fait. Si on m'avait dit ta fille arrêtera à l'école à 16 ans, j'aurais dit oh ben non, peut-être pas quand même. Moi, à son âge, je passais le concours général de français. C'est un titre honorifique hein, que en moins fait sont présentés à ce concours les quelques très bons élèves d'établissement et c'est purement un titre de gloire quoi. Mais
Vous êtes vraiment une enfant de cette école républicaine à 100%, un pur produit de l'école républicaine.
Complètement, complètement. Après, donc j'ai eu mon bac, après je suis allée en Hippocagne, enfin vous voyez, voilà. Bon, Gabrielle s'aventure vers un parcours très différent du mien. Néanmoins, ce qui s'est passé pour Gabrielle, c'était une môme brillante jusqu'en quatrième. Et puis en quatrième, alors bon, il y a une... des événements familiaux qui ont fait que moi j'ai été hospitalisée très longtemps, j'ai été à un moment dans le coma, on ignorait si j'allais en sortir ou pas.
Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Une tentative de suicide. Du coup, ma mère est venue s'en occuper et là, je pense que ça a été très compliqué à gérer pour Gabrielle. Je suis pas sûre qu'elle elle le raconte comme ça. Là, ça a été compliqué et Gabrielle a décroché. Le sentiment d'insécurité que mon geste a pu susciter chez elle lui a fait se demander quel sens ça avait de tenir où, quoi. Enfin, vous voyez,
d'un coup, l'école n'avait plus de sens.
Mais je pense qu'effectivement, quand on vit avec un seul de ses parents que ce parent se suicide, que pendant un mois, on ne sait pas si on va le récupérer ou pas. Et si on va le récupérer, dans, enfin, les médecins ne savent pas si ils allaient me récupérer et s'ils allaient me récupérer, dans quel état. Je pense que du coup, la vie, elle doit prendre une tournure assez particulière quand même et se dire, bah, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui a du sens, comment je vais décider de vivre, quoi. Voilà, enfin, j'imagine que des questions existentielles qu'on ne se pose pas nécessairement à 13 ans se posent avec une acuité particulière dans ce contexte-là. Bon.
Vous en avez parlé toutes les deux ?
Oui, oui, on en a parlé plein de fois. Gabriel, oui, me dit oui, mais pas que. Bon, alors il y a peut-être autre chose, hein, ça sûrement. Elle m'a dit qu'elle voulait arrêter. Gabriel est une môme qui est extrêmement honnête. C'est-à-dire qu'avant de faire les choses, elle m'en parle toujours. Elle ne me met pas devant le fait accompli, quoi.
Elle n'a pas construit sa haine de l'école en réaction à vous pour vous embêter, quoi.
Oh non. Mon truc, c'était pas de lui dire tu dois avoir bac plus 18. Non, c'était pas ça. Donc je pense pas que ce soit vraiment qu'elle ait arrêté l'école en réaction à ce que j'ai pu lui dire, parce que j'ai jamais cherché à pousser. Bon, ce qui est sûr, c'est que si effectivement on m'avait dit ta môme arrêterait l'école à 16 ans, j'aurais dit non. Maintenant, Gabriel me l'a demandé. Qu'est-ce que j'avais comme possibilité par rapport à ça ? Soit je lui disais, écoute Gabriel, non, tu vas à l'école. Donc, tous les matins, c'était...
La bagarre,
voilà, pour qu'elle se lève, pour qu'elle s'habille, pour qu'elle aille à l'école. Il aurait fallu quoi ? Que je l'emmène. Pourquoi pas si ça avait du sens ? Mais là, la faire asseoir sur une chaise pour qu'elle n'en retire rien, dès lors, quel est l'intérêt qu'elle aille s'asseoir sur une chaise à l'école ? Je vois pas bien. Je suis plus du tout anxieuse par rapport au fait qu'aujourd'hui, Gabriel n'aille pas à l'école. Je pense aussi que j'ai cette vision-là parce que Gabriel, malgré tout, évolue dans un environnement culturel plutôt porteur.
Vous avez plein de livres à la maison.
Voilà. Je lui parle de tout plein de films. Voilà. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est la diversité. C'est-à-dire qu'elle ne s'enferme pas dans une espèce de culture que, par ailleurs, on pourrait qualifier de sous-culture, mais qui, pour moi, ça n'existe pas. Elle entend aussi France Culture. Elle me voit aussi regarder. Hier soir, elle est sortie. Quand elle est rentrée, j'étais en train de regarder l'émission de Tadei. C'était un historien qui avait réfléchi sur la représentation du corps et les changements consécutifs à la Première Guerre mondiale. Ce que je trouvais extrêmement intéressant. Voilà, elle est restée. Elle a écouté ça. Elle n'est pas restée une heure, hein, mais elle a écouté une demi-heure. Elle sait que ça existe. Voilà. Et donc... Pour moi, c'est ça qui est important. J'ai pas l'impression que ce soit une môme démunie. Voilà. Elle va plus à l'école, soit. J'ai pas l'impression que ce soit une môme démunie. Et ça contribue évidemment à me rassurer.
Donc vous êtes pas inquiète ?
Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais non. Non.
Toi qui as 20 ans et qui est en terminale au lycée autogéré de Paris, tu as aussi eu un passé chaotique avec l'école. Comment tes parents, à toi, ont réagi ?
Déjà, il faut savoir qu'eux-mêmes n'ont pas... Enfin, ils ont arrêté l'école assez tôt. Et pourtant, professionnellement, ils ont bien réussi.
Contrairement à la maman de Gabi qui, elle, a été très loin dans ses études.
Donc, je pense que déjà, il y avait un point de vue totalement différent.
Et pourquoi ils ont arrêté tôt, tes parents, l'école ?
Mon père n'était pas intéressé, donc il est allé travailler à l'âge de 14-15 ans. Et ma mère, pour des raisons personnelles, n'a pas eu la chance de pouvoir accéder au lycée. Et déjà, mes parents sont assez ouverts d'esprit. Ils ont toujours été partisans de mes choix. Évidemment, ils ont toujours été à côté pour me conseiller, pour me dire attention, etc. Donc, quand ils ont vu que en première, j'ai commencé à ne pas aller en cours, puis que je leur ai expliqué que je voulais arrêter, ma mère... Elle m'a dit, ce serait bien que tu continues, mais elle m'a pas obligée non plus. Elle a accepté mon choix, parce que quand j'ai dit que je voulais arrêter le lycée, c'était pas non plus pour glander. Moi, j'avais en tête, en fait, d'aller au service civique pendant plusieurs années, puis de passer mon DAU, donc mon diplôme d'accès aux études universitaires.
C'est quoi exactement le service civique ?
Service civique, c'est un service qui permet aux jeunes de travailler, donc dans plusieurs domaines. Donc j'avais en tête, voilà, de quitter le lycée et de travailler dans le social grâce au service civique. Mais finalement, ben, j'ai continué le lycée. Donc mes parents, voilà, ils ont toujours été là pour moi, ils ont toujours accepté mes choix. Mais après, c'est vrai que quand ils ont vu que je continuais le lycée grâce au LAP, je pense que ça les a quand même beaucoup rassurés.
Au lycée autogéré de Paris, donc. Oui.
Tess, dans l'histoire personnelle de Gabi, il y a cet événement traumatisant, donc la tentative de suicide de sa mère, qui n'a peut-être pas déterminé toute son opposition à l'école, mais on devine que forcément ça a eu un impact. Le facteur vie personnelle peut jouer dans la déscolarisation, et cela pose la question centrale du manque d'accompagnement psychologique des élèves à l'école. À ton avis, Tess, s'il y avait un meilleur accompagnement psy des élèves, est-ce que ça limiterait le décrochage scolaire ?
Ça dépend ce qu'on entend par accompagnement psychologique, parce que, par exemple, au lycée autogéré de Paris, les profs sont très à l'écoute. C'est pas des psychologues pour autant. Même les élèves sont bienveillants entre eux, c'est-à-dire que quand on voit qu'un élève est pas là pendant plusieurs semaines, c'est arrivé, bah on lui envoie un message, on dit qu'est-ce qui se passe, etc. Le prof est là, le prof peut discuter, peut comprendre quand il y a absence à cause d'un souci personnel. Et rien que ça, en fait, rien que le fait de pouvoir parler au prof, de dire « je suis absent parce qu'il m'est arrivé ça, ça, ça », je pense que c'est très important. Parce que dans un lycée traditionnel, on peut en parler au prof, mais administrativement, ce qui va nous permettre de rester au lycée si on est absent pendant un mois, deux mois, ça va être des justificatifs médicaux, quoi. Alors que au LAP, on peut expliquer au prof sans avoir de sanctions.
Donc au lycée autogéré de Paris, il y a cet environnement de bienveillance.
C'est ça, je pense que c'est aussi le fait qu'on gère tout en collectivité. Et puis c'est aussi un lycée qui applique des méthodes alternatives. Et c'est vrai que beaucoup d'élèves se sont conduits vers ce lycée-là parce qu'ils étaient en décrochage scolaire. Donc au final, il y a beaucoup de chemins qui se ressemblent, je trouve.
Et alors c'est quoi justement les différentes causes du décrochage scolaire chez les élèves au lycée autogéré de Paris ?
Alors je ne les connais pas tous évidemment, mais j'avais entendu une prof en parler à quelqu'un d'extérieur au lycée. Donc elle expliquait que par exemple, il y a le harcèlement scolaire. Il y a beaucoup d'élèves au lycée autogéré de Paris qui ont subi un harcèlement scolaire et donc qui voulaient retrouver un lycée plus sécurisant. Il y a aussi des convictions politiques parce que le lycée autogéré de Paris est assez investi politiquement.
C'est-à-dire ?
Alors il y a des manifestations, on participe aux manifestations, on en parle, il y a des assemblées générales. Souvent quand il y a des événements politiques importants, ça arrive qu'on fasse des assemblées générales pour parler de ça. Il y a aussi...
Par exemple, cette année, vous avez parlé de quoi ?
Des élections, forcément.
Des élections présidentielles ?
Des élections présidentielles,
et législatives.
Oui, surtout des présidentielles, parce que ça a amené beaucoup de débats, forcément.
Vous en parlez pendant les cours ou plutôt en marge des cours ?
En cours de philo, on en a parlé, parce qu'on a parlé forcément de la politique, c'était au programme. Donc les élections présidentielles sont rapidement venues dans la discussion. Après...
C'est pas tabou en tout cas. La politique n'est pas tabou au lycée.
Pas du tout, au contraire.
Autogéré Paris.
C'est même montré et le lycée se revendique lui-même au niveau de l'éducation nationale comme lycée politique.
Donc engagé.
C'est ça.
Donc décrochage scolaire, raison politique, enfin, engagement de la part de certains lycéens. Et quoi d'autre ?
Et après, je pense qu'au-delà du décrochage scolaire, sans que ce soit un décrochage scolaire, il y en a qui recherchent tout simplement des méthodes pédagogiques différentes pour dire je veux apprendre, mais pas comme ça. I can see that you're afraid of me and I'm ashamed of that. I can see that you're ashamed of me, I was afraid of that. One you know, but I can hear your voice, the one we forget. I can see that all this misery takes me out of my place, and I can see that all is traveling the cliff's edge. Can you help me now to get out of this hell? And please come to me, Lord. I need your care.
like overdriven, and I'm shaped by the pen. Lost in the end, a world of spite. I really can't accept this shame. I can hear the noise, the one you know.
The Cliffs Age Impériale sur RFI, une chanson composée par deux élèves du LAP, le lycée autogéré de Paris. Et c'est bien sûr le choix de Tess, notre jeune invitée d'aujourd'hui dans Le Monde est à nous, le magazine de l'été qui donne la parole aux 15-25 ans. Aujourd'hui, à la veille de la rentrée, qui nous fait tous trembler, on parle de l'école. Tess, tu as donc 20 ans, tu es en terminale dans ce fameux lycée autogéré de Paris, un établissement public aux méthodes alternatives. D'après toi, d'où doit venir le changement de l'école traditionnelle ? Est-ce qu'on peut attendre une réforme de l'école, par exemple, si elle a été pondue par des profs ou par des personnes qui, quelque part, ont été portées par ce système ? Ou est-ce que ce sont ceux qui ont été dans l'échec de l'école qui doivent réformer l'école ?
Je pense que le changement peut venir des deux parties. J'ai connu des professeurs donc dans des lycées traditionnels qui appliquaient eux-mêmes des méthodes différentes que le lycée leur imposait. Ils n'étaient pas forcément bien vus par les autres profs, mais ils prenaient cette liberté-là d'apprendre différemment, d'enseigner différemment. Donc je pense que c'est pas parce qu'on appartient à la bonne vieille école traditionnelle qu'on veut pas essayer autre chose.
Et donc ça peut, le changement peut venir des profs et aussi des élèves.
Bien sûr, je pense que d'ailleurs le plus gros changement, les plus grosses idées de changement viennent des élèves, parce qu'au final c'est, on oublie souvent que c'est eux l'unité centrale de l'école au final.
Mais t'as l'impression qu'on les écoute aujourd'hui, les élèves ?
Non, j'ai pas l'impression, non.
Tesla, tu viens d'avoir ton bac, tu es inscrite en fac de psycho à Grenoble. Tu vas donc, par la force des choses, rejoindre le troupeau du système conventionnel. Je vois, tu fais une tête, tu es à moitié réjouie. Ça te fait pas peur ? Tu as pas peur d'avoir un peu de mal à t'adapter, en tout cas d'être en décalage ?
J'essaye de pas y penser, pour me le rappeler malheureusement, non.
Qu'est-ce qui t'inquiète ?
Les cours magistraux. Après, j'essaye de m'attacher à l'idée que voilà, la psychologie, c'est ce que je veux faire depuis déjà des années. Donc, je pense que j'aurais déjà plus de motivation et de volonté à aller au cours plutôt qu'au cours qui ne m'intéressait pas au lycée.
Est-ce que tu penses que, parce qu'au lycée autogéré de Paris, il y a cette proximité et cette égalité, ce rapport d'égalité même entre les élèves et les professeurs. À l'université, en France, c'est très différent. Il y a même quand même une grande distance. Il y a la hiérarchie et une grande distance entre les étudiants et les professeurs. Est-ce que toi, tu penses que spontanément, tu essaierais de créer ce lien quand même ?
Il faut savoir que cette année, même si j'étais inscrite au LAP, j'avais un cours de langue en lycée traditionnel. Donc j'avais 2 heures dans la semaine de cours dans un lycée traditionnel avec un prof qui n'a jamais connu de pédagogie alternative. Et j'avais cet élan-là d'aller le voir, par exemple, un truc tout bête. Il me demandait pourquoi j'étais pas là ou pourquoi j'étais en retard. En lycée traditionnel ou même au collège, on va essayer de mentir, on va stresser, etc. Et moi, naturellement, je l'ai regardé, j'avais pas envie. Parce qu'au LAP, on a le droit de pas avoir envie. Donc je pense que je vais naturellement avoir cet élan-là. Après, on verra bien comment ça se passe avec les profs. Parce qu'en fait, je pense qu'une proximité entre élèves et profs peut apporter beaucoup, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc oui, je pense que naturellement, je vais essayer. Si ça marche pas, tant pis. Si ça marche, tant mieux.
Une dernière petite question un peu provoque pour conclure cette émission. Est-ce que quitter le système comme tu l'as fait, ça ne revient pas d'une certaine manière à sauver sa peau, mais du coup à ne pas changer les choses pour la collectivité ? Et est-ce que du coup, toi qui as eu la chance de vivre une scolarité un peu exceptionnelle au lycée autogéré de Paris, où on l'a très bien compris, les places sont limitées, est-ce que ça te donne envie de t'engager plus tard ? Pour réformer le système traditionnel classique de l'école.
Alors déjà, appartenir au lycée autogéré de Paris, c'est pas forcément vouloir changer les choses. C'est vouloir vivre quelque chose de différent, oui, mais pas forcément vouloir le changer. Honnêtement, moi, ma petite personne, je vois pas ce que je pourrais faire pour changer les choses. Surtout que professionnellement, je me dirige pas vers l'enseignement. Après, le lycée autogéré de Paris participe à la protection de certains établissements alternatifs, parce qu'il n'y a pas que le lycée autogéré de Paris. Il y a par exemple le lycée de Saint-Nazaire qui menace de fermer à la rentrée. Donc le lycée autogéré de Paris participe à sa protection. Donc je pense que même si on peut pas faire grand-chose, on va pas non plus aller voir directement l'éducation nationale, dire ce qui va pas, ce qui va. Mais on essaye, avec notre petite échelle, de faire ce qu'on peut, quoi.
Merci Tess en tout cas d'être venue jusqu'à nous. On te souhaite une très belle rentrée à toi et à tous les auditeurs. Et si demain vous avez école, ne faites pas la tête, hein, malgré tout le mal qu'on en a dit aujourd'hui, l'école on l'aime. Un très très grand merci à Jérémy Besset qui a réalisé tout l'été cette émission avec talent, enthousiasme, humanité et patience. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions, les photos des jeunes et les liens internet sur notre page Le Monde est à nous sur RFI. Ainsi que sur nos réseaux sociaux. D'ici l'été prochain, n'oubliez pas, si vous êtes jeune, de continuer à prendre la parole et si vous l'êtes moins, n'oubliez pas de la leur donner. Salut à tous.
Et bonne rentrée.